Alors ce matin, on a parlé de l'oraison, qui est le premier et le plus grand des moyens de la vie dans l'esprit. Et cet après-midi, je voudrais parler des autres moyens. Alors en une heure, parler de tous les autres moyens de la vie dans l'esprit. Bon, il y en a pour faire une année de cours, mais enfin, on va essayer de donner les choses qui me paraissent les plus importantes. D'abord, un petit mot sur ce qu'on a dit ce matin. On a l'important c'est de persévérer. Alors, si on n'a pas l'habitude de faire cette oraison, prendre une habitude, c'est toute une affaire. Prendre une habitude nouvelle, ça ne se fait pas en 3 minutes. Ça prend du temps. Ça demande déjà toute une persévérance. On peut s'apercevoir que ça marche 3 jours et puis ça, on oublie 3 jours et puis ça marche 4 jours puis on oublie encore 3 jours. Hein, et puis bon, ça marche 6 mois puis on oublie 3 mois. Hein, bon, c'est comme ça. Une habitude, c'est une succession d'actes. Hein. Et alors, ce que je trouve merveilleux quand même, c'est saint Thomas d'Aquin qui a inventé ça, mais je trouve que c'est la vérité, mais enfin, c'est une vérité merveilleuse. Il dit qu'une habitude, elle commence avec le premier acte. C'est formidable. Hein. Alors, dès que vous aurez fait une fois, vous pouvez dire « mon habitude, elle est déjà commencée ». Elle n'est peut-être pas très très forte, mais enfin, on peut la fortifier. La mauvaise habitude aussi, ça commence avec le premier acte, mais quand même, on peut espérer que l'Esprit Saint est plus fort que le mauvais esprit. Alors bon. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un seul Esprit Saint, il y a beaucoup d'esprits, mais il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Hein, et cet Esprit Saint, c'est l'esprit de sainteté. Hein. Et ça aussi, c'est notre programme. Saint Paul II, quand il a donné le programme pour le troisième millénaire, il a dit le programme de l'Église pour le troisième millénaire, c'est le programme de toujours. Il n'y en a qu'un seul, c'est la sainteté. Et alors, autre chose qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'Église catholique, comment dire ça ? L'Église catholique, c'est là où on a conservé tous les moyens de salut que Jésus nous a donnés. Bien sûr, dans toutes les églises chrétiennes, il y a le baptême, hein. Il y a les sacrements. Les sacrements, on en a 7. Hein. Alors, chez les protestants, il y en a qui n'ont qu'un seul, il y en a qui en ont 2 ou 3. Mais enfin, ils n'en ont pas 7. Il y a tous les moyens de salut. On peut dire qu'on la conserve. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais ça veut dire que, vous voyez, il y a des choses qu'on n'abandonnera jamais. Même si on fait l'écuménisme, si l'Église se réunit, on n'abandonnera jamais les 7 sacrements. On n'abandonnera jamais que l'Eucharistie, où c'est le corps et le sang de Jésus. Réellement présent. On n'abandonnera jamais ça. C'est notre plus grand trésor. Voyez. Pour faire ce qu'on veut, il va bien falloir que les autres qui n'y croient pas le découvrent un jour. Comment ? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a rien à découvrir, parce qu'on peut avoir aussi. D'ailleurs, j'ai vu ça, que c'est une entrevue de Ratzinger avec un comment que ça s'est passé. Non, c'est pas Ratzinger, c'est une autre personne. Mais on avait envoyé quelqu'un de Mgr Lefebvre pour écouter ce qu'elle disait. Et puis elle, Jésus lui a fait comprendre que c'était un gars de Mgr Lefebvre. Elle dit, vous trouvez sans doute que l'Église catholique a ouvert les portes un peu trop grand. Oui, oui, c'est ça. Mais attendez-vous qu'elle va ouvrir aussi les fenêtres. Alors on a peut-être à ouvrir nos fenêtres aussi, hein. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner. Comme la Sainte Vierge, bon, c'est notre mère. Bon, Il y en a qui ne la connaissent pas, ils sont orphelins de mère, ce que vous voulez. Mais un jour, ils vont peut-être découvrir qu'ils ont une mère dans le ciel et qu'ils en ont besoin. Le pape, bon, il a un service à rendre, qui est le service de confirmer ses frères dans la foi. Voilà un moyen que Jésus nous a donné qui est extraordinaire. Il y a une seule personne comme ça dans le monde qui a une grâce spéciale pour confirmer qu'on sait qu'il ne va jamais nous enseigner des choses qui sont contraires à la foi ou à la morale. Au contraire, il va nous confirmer dans la foi. C'est pas lui tout seul, c'est qu'il confirme la foi de ses frères. C'est la foi de toute l'Église qu'il confirme, disant, vous êtes dans la juste, vous êtes dans la vérité quand vous croyez cela. Bon, alors, peut-être qu'un jour, les événements feront qu'on s'apercevra qu'il est vraiment indispensable. Bon, on a déjà vu pas mal avec Jean-Paul II, hein, mais on en verra peut-être davantage. Oui. Et alors, pour vivre dans l'esprit, il faut aussi avoir que toute notre vie elle soit prise par l'Esprit Saint, elle soit dirigée par l'Esprit Saint. Et entre autres, vous voyez, il y a les vertus. Les vertus. Bon, il y a les vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité, ça c'est important. Et Jésus dans l'évangile, tiens, ça a l'air de marcher ça. Ah oui, ça marche. C'est mieux comme ça, non? Je sais pas, on verra. Hein. Ça marchait pas tout à l'heure. Quand il parle de l'Esprit Saint, il dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » C'est la force d'en haut. « Après ça, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. » Un paraclet, c'est un défenseur, ou un conseiller, ou un inspirateur. C'est quelqu'un qui va nous guider. Et l'esprit de vérité, c'est lui qui va nous rappeler la vérité tout entière. Ensuite, il donne l'Esprit Saint pour qu'il puisse remettre les péchés. C'est l'Esprit Saint, par sa puissance, qui remet les péchés. C'est l'Esprit Saint, par sa puissance, qui consacre le pain et le vin. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Et puis après ça, évidemment, il y a l'Esprit Saint qui est donné à la Pentecôte. Alors là, il fait des miracles. Fait des conversions, il parle dans le cœur des gens. Ils disent qu'ils avaient le cœur transpercé. Alors, quand on a le cœur transpercé, c'est transpercé d'amour. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui qui se convertissent, qui rencontrent Jésus vivant, qui reçoivent l'Esprit Saint, on pourrait dire, d'une façon nouvelle, qui reçoivent des grâces, ou qu'on pourrait appeler des grâces mystiques, qui sont une grâce d'amour, une grâce de paix, ou une grâce de joie, ou tout ça, qui leur est donnée comme ça directement par le Saint-Esprit. Vous voyez. C'est très important. C'est des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans. On ne voyait pas ça. Des gens convertis comme ça, qui sont. Bon. C'est des choses qui existaient dans le temps des apôtres, on le voit bien dans les actes des apôtres, mais peut-être qu'il y avait eu une espèce de calmie pendant un certain nombre de siècles, et ça revient très fort aujourd'hui. Et il y a des gens qui peuvent se demander pourquoi. Pourquoi qu'aujourd'hui, à partir de 1960, ça revient et que pendant plusieurs siècles, apparemment, on n'a pas vu ça. Il y en a toujours eu, mais ça se donnait dans les vies des saints. Les saints qui avaient vécu toute leur vie dans la prière, l'austérité et tout ça, à la fin de leur vie, ils avaient des espèces de pentecôtes comme ça, des contacts avec Dieu extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui vivent dans le péché, tout d'un coup, qui rencontrent, Jésus vient, il vient les prendre, il vient leur faire ce qu'on disait tout à l'heure, un plongeon d'amour, que comme ça, toute leur vie est changée. Moi j'en ai vu, bon, vous en avez certainement vu, il y en a partout. Hein. Ce n'est plus une rareté, c'est une chose courante, disons. Hein. Pourquoi que l'Esprit Saint fait ça aujourd'hui à notre époque, hein. On pourrait toujours lui demander quand on sera au ciel, hein. C'est ce qu'il fait. Mais je pense qu'une des raisons, c'est que les gens sont tellement enfoncés dans leur péché que c'est le seul moyen d'aller chercher. Hein. Ils sont tellement enfoncés dans l'esprit du monde, dans leur orgueil, dans leur toutes choses comme ça, qu'il faut que l'Esprit Saint fasse une petite opération chirurgicale pour dire attention mon gamin, je t'aime et je veux que tu le saches. Hein. Alors je prends un grand moyen. On ne peut plus avec les petits moyens, les gens bon, ils n'ont pas été au catéchisme, ou bien alors au catéchisme ils n'ont fait que du découpage, ou bien alors ils ne savent pas grand chose, ils n'ont pas appris à prier. Alors et bon. Alors Jésus décide de leur faire des petites apparitions comme ça. Oh, une petite apparition par-ci, une petite apparition par-là. Hein, et pour dire, ah ben, tu vois, j'existe. Hein, et puis je t'aime, je te connais, je m'occupe de toi. Hein, et puis en général, il choisit les plus. Comment dire, est-ce qu'il lui dit ça, hein. C'est partout, hein. Il dit, pourquoi tu m'as choisi? Moi, je suis indigne, je sais rien, je suis nul. Ben justement, si j'en avais trouvé une plus nulle que toi, je l'aurais choisi. À Sainte Marguerite Marie, que quand Jésus y est apparu pour révéler le Sacré-Cœur, c'est ça qu'elle a posé comme question, et c'est ça qu'il a dit. Vraiment, si j'en avais trouvé une plus indigne que toi, c'est elle que j'aurais prise. Comme ça, à Don Gobi, c'est pareil. La Sainte Vierge, je lui parle, j'ai fait un message pour tous les prêtres du monde. Il dit, pourquoi tu me prends comme ça? Je t'ai pris parce que tu es tellement. Je ne sais pas comment qu'elle dit, elle essaie de dire bon gentil quand même, mais. Enfin, tu es tellement pauvre que les gens ne vont pas croire que c'est toi qui as inventé ça. C'est ça en fait. Et c'est toujours comme ça. Quand elle a choisi Bernadette qui vivait dans le cachot. Qu'elle n'avait pas été au catéchisme, que son père était mal vu, bon, tout ça. Hein. Bah, ouais, les gens ne vont pas croire que c'est toi qui as inventé ça. Hein. Et le curé a bien compris que ce n'était pas elle qui avait inventé ça. Alors c'est toujours comme ça. Hein. Ben alors il vient nous chercher. Hein, parce que c'est notre misère qui l'attire, ce n'est pas nos exploits, les grandes œuvres qu'on a faites pour Dieu. Hein. C'est notre misère. Et si on reconnaît qu'on est indigent, c'est ça qui l'attire. Toujours la même chose, hein, parce que c'est un Dieu d'amour. Et il veut notre cœur. Ce qui est le plus profond dans l'homme, qu'est-ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu ? Est-ce que c'est parce que, il y en a qui sont des anthropologues, disent c'est parce que l'homme il a des mains. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu ses mains. Hein? Parce qu'il est intelligent, il est capable de penser. Oui, peut-être, oui. Bon, c'est vrai que les saints, j'y pense pas beaucoup. Hein? Mais, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il a un cœur qui est capable d'aimer. Que Dieu nous a créés pour se donner à nous. Hein? C'est pas pour qu'on construise le monde, pas sûr, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Il nous a créé pour se donner à nous, pour nous aimer, hein, pour pouvoir répandre son amour dans d'autres êtres qui seraient capables de le reconnaître et de lui rendre un peu cet amour. Hein, en toute petite dose qu'on va lui rendre quand même. Et c'est pour ça qu'il nous a fait un cœur, une capacité d'amour, une capacité d'être aimé. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est très important pour ce qu'on dit tout cet après-midi sur les moyens. Hein. Parce que le grand moyen que Jésus veut nous donner pour nous faire vivre dans l'esprit, surtout à notre époque, c'est la confiance. Et alors de savoir qu'il nous a fait pour nous aimer, et que chaque être humain que ce soit nous ou que ce soit les autres que nous rencontrons, ce qu'il y a de plus profond en lui, c'est cette capacité d'amour, que l'Esprit Saint seul peut y entrer. Et aucune blessure de notre passé, et aucune blessure de notre, aucun péché, aucune blessure que d'autres ont pu nous faire, ne peut tuer cette capacité. Et aucun psychiatre ou autre chose ne peut toucher et entrer dans cette chose-là non plus. C'est le domaine réservé de l'Esprit Saint. Il nous a fait comme ça. Alors après ça, on peut refuser, ça, on est libre, mais on est comme ça. Et c'est très important, des fois, moi je vois des gens qui viennent me voir, qui me racontent tout ce qui leur arrive, et il m'arrive des fois où je me dis, mon Dieu, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Je pèterais les plombs, je ne sais pas, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Ben, c'est pas ça qu'il faut que je me dise, de toute façon. Parce que c'est pas à moi de régler les problèmes de l'autre, et puis c'est pas mon problème à moi. Mais, et en fait, les personnes, eux, ils sont pas découragés. Ben, ils sont, ben, évidemment, ils portent la croix. Mais si, en écoutant les gens, j'ai les cheveux qui se dressent sur ma tête, les gens vont dire, oh, qu'est-ce que ce que j'ai, c'est très grave. Et ils vont être paniqués. Mais si je pense que Jésus, lui, il connaît la solution des problèmes, bon, c'est Jésus qui est capable de leur montrer. Et puis moi, j'ai confiance en Jésus. Alors, je ne sais pas quelle est la solution, mais je sais que Jésus la connaît. Et puis, il ne demande pas de régler tout le problème en un quart d'heure. Il demande de faire un pas à la fois. C'est déjà pas mal. Alors, en faisant un pas à la fois, ben, quand on a fait ce pas-là, ben, on voit... Dans le meilleur des cas, on voit le pas suivant qu'il faut faire. Mais on ne voit pas tout le programme, d'un seul coup. Alors, moi, encore moins. Mais si j'ai ce regard de confiance sur la personne, d'ailleurs, c'est pareil pour vous, si vous êtes chrétien, en général, les chrétiens qui prient, souvent, les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne prient pas, et quand ils ont un problème sérieux, ben, c'est aux chrétiens qu'ils vont voir. Ils ne sont pas, ils ont une espèce d'antenne, ils sentent qu'il y a des gens autour d'eux qui sont peut-être plus moins centrés sur eux-mêmes, qui vont être capables d'écouter. C'est comment que j'interprète les choses. Bon, ben, faut pas paniquer, faut savoir que Jésus connaît la solution, c'est très important. Et puis surtout, ben, si Jésus, à travers le contact qu'ils ont avec nous, si Jésus peut faire mettre un peu d'amour dans leur cœur, c'est ça qui les fait vivre. C'est là que c'est le plus profond. Voyez. Alors, l'Esprit Saint, dans ce livre, ça c'est ce livre, je ne sais pas si c'est la même couverture qu'ils ont là-bas, mais enfin c'est sa fidélité au Saint-Esprit, il parle de toutes ces choses-là. L'Esprit Saint demande trois formes de fidélité aux inspirations, aux motions et à la personne, ou aux emprises de l'Esprit Saint, les inspirations. Parce que les inspirations, mais il faut savoir quand est-ce qu'on a dans la tête une inspiration de l'Esprit Saint. Parce que des fois, c'est juste une idée qui nous passe par la tête, mais ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça vient peut-être de nos bons projets, ou des fois, ça vient peut-être de nos désirs personnels. Alors, l'Esprit Saint, quand c'est une inspiration qui vient de l'Esprit Saint, ça nous donne la paix, d'abord. Ça ne donne jamais le trouble. Si en recevant une inspiration, on sent qu'il faut qu'on parcourt le monde entier pour dire attention, la fin est proche, pas sûr. Si c'est très très urgent à réaliser, il y a peu de chances que ça vienne de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, Il nous donne la paix. Il nous laisse libre. Il nous laisse libre. Si vous tout de suite réalisez dans le quart d'heure qui suit, ça c'est comme les aubaines dans les magasins. Si vous n'avez pas acheté aujourd'hui, vous avez raté l'occasion de votre vie. Garantie, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. c'est pareil, hein, dans notre vie, on peut avoir des très bonnes inspirations. Il faut que je dise à un tel que, je sais pas moi, le bon Dieu va le punir, je sais pas quoi. Absolument urgent dans les 5 minutes qui suivent. Pas sûr. On peut toujours demander conseil. Oui. Alors il nous donne la paix et il nous laisse libre. Hein. Puis en général, c'est intérieur, disons. C'est pas du grand spectacle. Hein. Une personne comme ça qui disait qu'elle avait des visions, des paroles du ciel, et elle annonçait que tel soir à minuit dans le ciel il va y avoir un signe à tel endroit. Et alors là il y a des dizaines de personnes qui se réunissaient pour regarder dans le ciel à minuit. Bon, on peut pas dire que c'est très très intérieur comme inspiration. Hein. Ça fait courir les gens. Bon. Une chose comme ça, ça n'inspire pas beaucoup confiance a priori. Bon. Mais voyez, et une inspiration. Alors une chose aussi dans les inspirations, eh bien, c'est que c'est quand ça vient de l'Esprit Saint, c'est que c'est pas en contradiction avec la foi catholique. Il y a une personne comme ça aussi qui dont on m'a parlé, d'ailleurs un ami que je connaissais qui la suivait, il était hypnotisé par cette personne. Enfin, elle faisait des petites cérémonies de prière et tout d'un coup, dans ses manches, il sortait deux hosties comme ça. Et puis elle appelait ça, pas des hosties, mais elle appelait ça d'un autre nom, un nom un peu bizarre, je l'entends. Bon. Je dis, c'est bizarre, d'abord les hosties, c'est pas fait pour sortir par les manches, hein, et puis d'où est-ce qu'elles viennent, puis les hosties, pourquoi on les appelle pas des hosties, pourquoi qu'on choisit un nom bizarre. Bon, alors, moi, finalement, alors, bon, on pourrait raconter tous les cas bizarres que je rencontre, mais c'est pour dire que ça ne peut pas entrer en contradiction avec la foi catholique, vous voyez. Je ne sais pas, moi, c'était la mode, à une certaine époque, de changer les parties de la messe. Bon, pour faire changement, on mettait l'évangile à la fin, le baiser de paix au début. Hein, tout ça. C'est pas vraiment contre la foi catholique, mais enfin, l'Église a quand même reçu la mission de dire comment que la messe doit se dérouler. Bon. Si un jour Jésus, quelqu'un a une inspiration pour vous dire que la Sainte Vierge, c'est pas. Il ne faut plus la prier, bon, on peut dire que c'est pas, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Ça a toujours été dans l'Église. Ça a toujours été la mère de Dieu. Je pense que ça ne va pas changer. Même au ciel, elle est toujours sa mère, vous voyez. Et puis, même au ciel, elle est toujours notre mère, parce que Jésus l'a dit. Hein. Elle a tellement souffert avec Jésus, elle a participé à la rédemption, elle reste notre mère. Hein. Et de plus que jamais, elle se manifeste pour dire « Je suis avec vous. Hein. » Et puis, si un jour, je ne sais pas, quelqu'un découvre que un huitième sacrement, bon. Ça m'étonnerait. Ou bien que l'Eucharistie, c'est pas le corps du Christ. Hein. Peut-être un jour qu'ils vont inventer ça. Hein. Non, ça, c'est tout à fait clair. Ça a toujours été clair, hein, dans l'Évangile. Hein. Jésus dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà un des moyens de la vie dans l'esprit, hein, l'Eucharistie. Alors, je vais reprendre simplement la... Donc oui, je disais pour les conversions qu'il y a, hein, je reviens à mes conversions, hein. Quand quelqu'un est converti comme ça, puis qu'il a été peut-être monté au septième ciel, donc ça peut exister, hein, Bon. Et puis qu'il a eu un contact direct avec le Saint-Esprit. Ben, on peut dire Alléluia, tant mieux, il avait besoin de ça, et ça lui fera du bien, et c'est vrai que ça a changé toute sa vie. Ça ne veut pas dire que cette personne-là sait tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est devenue un saint. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, que plus personne ne peut lui apprendre quoi que ce soit. Ça veut dire tout simplement que ce jour-là, il avait besoin de cette grâce-là pour faire un pas qu'il a fait dans le meilleur des cas. Hein. Bon. Et après ça, il va falloir que l'édifice se construise. Il va falloir qu'il apprenne son catéchisme, s'il n'y a jamais été ou s'il a oublié. Hein, voyez. Et puis, il va falloir qu'il apprenne à recevoir les sacrements. Voyez. Ils ont été donnés pour tout le monde. Voyez. Il va falloir qu'il apprenne à pratiquer la patience, la douceur, la miséricorde, l'humilité. Et là, quand on a eu une grâce mystique comme ça, c'est la tentation peut-être de se croire en ligne directe avec le Saint-Esprit. Bon, il faut qu'il apprenne l'humilité aussi. Il faut qu'il soumette ses inspirations à d'autres, hein, bon, pour savoir si vraiment ça, tout ça vient de l'Esprit Saint. C'est des choses, hein, mais ça ne veut pas dire que les grâces sont fausses, au contraire, ce sont de vraies grâces. Et peut-être que pour lui, c'était le seul moyen d'attirer son attention et de le mettre sur la route de la foi chrétienne. Pour ça, il a besoin d'être entouré, de dire on va t'accompagner, eh bien, on rend grâce à Dieu. Mais bon, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Même s'il dit qu'il sait tout ça, ben on peut encore voir. Hein. Le voir. Saint Paul, peut-être qu'il a reçu tout ça d'un seul coup. Hein. Il a quand même été vérifié avec les apôtres. Pour voir, il dit, j'ai été vérifié, il a été au bout de quelques années quand même. J'ai été vérifié avec les apôtres, tu vois, si l'évangile que j'annonçais était bien et si je ne courais pas en vain. Hein, vous voyez. Même Saint Paul, qui a eu les plus grandes visions, il a fait ça. Et puis la conversion, elle se réalise vraiment, tous les saints le disent, hein, elle se réalise, on sent qu'elle est véritable le jour où la personne a été se confesser, a reçu la réconciliation. Avant ça, on ne sait pas de quel bord il va pencher. Le jour où il s'est confessé, là, il a reçu quelque chose. Il a reçu le don de Dieu. Il a reçu une autre grâce encore plus profonde qui a lavé ses péchés, qui l'a rempli de l'amour de Dieu. Alors, on peut regarder parmi les moyens de la vie dans l'esprit. La foi, hein, c'est ça, hein, la foi objective, ça veut dire que c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure dans l'homélie. Hein. On est à l'époque où on dit facilement que toutes les religions se valent, qu'on a tous le même Dieu, on est tous frères. J'en ai un musulman dans le train l'autre jour qui m'a dit qu'on est tous frères. J'avais envie d'être d'accord avec lui parce que je crois qu'elle avait pris un petit coup et elle n'était pas en état de discuter. Mais en tout cas, on était tous frères. Mais on n'est peut-être pas frères de la même manière. Nous, on est frères parce qu'on est les fils du Père que Jésus nous a donné. Et eux, ils ne connaissent pas leur Père du ciel. Ils ne connaissent pas Jésus non plus comme le Fils unique de Dieu. Mais bon, alors c'est ça. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est le seul qui a été envoyé sur la terre pour nous révéler la plénitude de ce que Dieu veut nous révéler. Voyez. Et il nous a tout dit. Voyez. On l'ajoutera, on n'y courra jamais avant la fin du monde qu'il a oublié de nous dire quelque chose. Ceux qui découvrent dans des grottes cachées, dans des livres soi-disant interdits, des choses nouvelles que Jésus aurait oubliées, en général, ils finissent par fonder des sectes. Mais ça n'existe pas. Parce que la révélation objective est terminée depuis la mort du dernier des apôtres. Ça a toujours été comme ça. Donc depuis ce temps-là, on n'inventera rien de nouveau. On va peut-être découvrir des choses qu'on n'avait pas bien comprises. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception, il a été proclamé en 1854. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croyait pas avant, mais ça veut dire qu'on a senti le besoin de on a senti que c'était une certitude absolue et qu'on pouvait baser notre foi là-dessus. Et ça aussi, c'est, ça signifie qu'il y a quelque chose de réservé à l'Esprit Saint dans notre cœur. Et que dans le cœur de la Vierge Marie, il y avait quelque chose de réservé à l'Esprit Saint et qu'elle n'a pas connu le péché originel. Voyez. Bon. Alors, voir ça, hein, ça c'est la première chose. Est-ce que la résurrection de Jésus, c'est une chose claire pour nous? Est-ce que le pardon des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, tout ça, vous voyez, et il faut que ça soit clair. Hein, ça ne changera pas. Hein, et tout ça. Alors ça, c'est des moyens, c'est très important, parce que ça nous évite de faire des fausses routes, de suivre des faux prophètes, de discuter sans s'étendre pour des queues de cerise. Hein, bon, ça ne changera pas. C'est les bases de notre vie. Ça, c'est la foi. Hein. Parmi les moyens de la foi, ben, il y a la prière quotidienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Ensuite, il y a le devoir d'État. Hein. Vous voyez, on a parlé des femmes mariées. Elles ne vont pas passer 4 heures ou toute la journée à l'église si elles ont des enfants en bas âge à élever à la maison. Parce que c'est leur devoir d'État, c'est ça. Hein. C'est leur mari, leurs enfants. Après, si le reste du temps, c'est bien. Hein, mais... Et bon, parmi ce devoir d'État, il y a des choses qu'il faut. Vous voyez, tout à l'heure, on disait pour être un bon chrétien, c'est pas nécessaire de faire des choses pour monsieur le curé. Il faut simplement vivre avec Jésus notre vie quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire dans la paroisse. Hein, mais là aussi, il faut un discernement, une juste mesure, des priorités. Alors, quelles sont les priorités? Premièrement, c'est notre relation personnelle avec les personnes divines. Ça, c'est la priorité. Même le mari, il passe en second. Parce que qu'est-ce qui va me permettre d'aimer mon mari? C'est l'amour que Jésus me donne. Hein, voyez. Et ça existe, hein? Des femmes qui disent, eh bien, ah, j'ai découvert que mon mari, c'était mon Dieu. Il n'y avait rien qui passait au-dessus. Et en effet, mon Dieu. Il faut que ce soit juste aux mesures. Notre Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est notre Dieu qui nous donne l'amour pour aimer ceux qui nous entourent. Donc, ma relation personnelle avec Dieu, ma famille, c'est la deuxième priorité. Vous voyez? Ça, c'est le devoir d'État. Hein. Et en troisième, bon, tout le reste, le travail, que ce soit le travail à l'entreprise ou le travail à la paroisse, ça passe après la famille, bien sûr. Il y avait un diacre, le premier diacre qui a été ordonné dans l'Oise, qui est mort maintenant, et il avait des grands-enfants qui avaient 15, 18, 20 ans, à l'époque où il était ordonné diacre. Et il s'est lancé à faire toutes les choses qu'on lui demandait. Et au bout de quelques mois, les enfants ont dit, mais papa, mais reste un peu à la maison. Hein? Qui est encore notre père. Hein? Bon. Alors, et maintenant, ici, chaque fois qu'on ordonne un diacre permanent, on dit, ta première mission, c'est ta famille. Après, il y a autre chose. Mais ta première mission, c'est ta famille. Hein? Et c'est pareil, vous voyez. Et donc, c'est une chose qui arrive souvent, c'est que dans une paroisse, j'étais responsable de paroisse un temps, eh bien, quand on a des gens gentils qui font des belles choses dans la paroisse, ou qui font du catéchisme ou tout ce qu'on veut, et puis tout d'un coup, on a un travail nouveau à faire, on découvre un nouveau besoin, tout ça. À qui on va demander en priorité? Et on va demander à Madame une telle, parce qu'elle fait déjà les choses tellement bien. Hein? Elle fait déjà le catéchisme, elle fait déjà la liturgie, elle fait déjà le conseil économique, elle fait déjà ceci, elle fait déjà ça, mais on va lui demander encore, elle fait ça tellement bien. Et on ne pense pas que cette femme-là, elle a sa famille, ses enfants, son mari. Vous voyez, on n'y pense pas. Enfin, on y pense peut-être, mais disons qu'on est tenté de ne pas y penser, de trouver que c'est une aubaine merveilleuse d'avoir une personne aussi merveilleuse que ça, que c'est à elle qu'on va demander. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aller trouver une personne qui ne fait rien du tout et de lui apprendre de bé à bas, je voudrais que vous me fassiez ceci, il faut faire comme ça, vous l'apprenez comme ça. Ça prend du temps d'enseigner à quelqu'un à faire quelque chose de nouveau. Hein. C'est bien plus facile d'aller trouver quelqu'un qui sait tout faire. Hein. Alors, je vous dis ça parce que ça peut vous arriver. Hein. Ben, il faut apprendre à dire non par amour de Jésus. Hein, c'est difficile ça. Hein. Mais on peut apprendre à dire. D'ailleurs, c'est le cardinal Daniel qui a dit ça à des prêtres. Eux aussi, ils ont la tentation de tout faire 25 heures par jour. Il dit, vous avez du temps pour manger, pour dormir et pour prier. Bon, pour les gens qui sont mariés et aussi leur famille. Hein. Bon, alors, vous voyez, il faut apprendre à dire non par amour de Jésus. En disant, monsieur le curé, je pense que Jésus, il me demande de faire passer ma famille en premier. Il faut que mes enfants me voient de temps en temps à la maison. Hein. Bon, ben, c'est important de le dire parce que c'est comme ça aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire. Hein. Bon. Et puis en fait, on peut trouver des gens, mais il faut leur apprendre. Hein. Puis même si on n'en trouve pas, eh bien, la paroisse ne va pas s'écrouler parce qu'on se croit indispensable. Hein. Vous voyez. Alors ça, c'est important, priorité. Hein. Bon. Jésus, s'il veut je vais vous parler de la confiance, on va quand même en parler un peu. Hein. On reviendra là-dessus s'il reste du temps. Hein. Mais, vous voyez, donc la foi, l'espérance et la charité. Bon, la charité, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est nos rapports avec Dieu d'abord, aimé par-dessus tout, et les autres. Hein. Et Jésus dit, eh bien, ce que vous avez fait à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, mes paroles, mes pensées, et tout ce qu'on veut, hein, vous voyez, ça peut aller très loin, hein, nos actions, bien sûr. On peut demander à Jésus de nous purifier. Et puis, bien sûr, s'aimer soi-même. Hein. Il y a des gens qui ne s'aiment pas soi-même, hein, ou qui ne s'aiment pas assez, ou qui se reprochent indéfiniment des choses. Hein. Ben, il faut aussi s'aimer suffisamment, comme Jésus nous aime, il t'a pardonné tes péchés, il faut que tu te pardonnes toi-même. Hein. Vous voyez. Alors, et l'espérance, vous voyez, ça, c'est la grande vertu d'aujourd'hui. On a besoin de grandir dans l'espérance. Parce que notre monde, il n'est pas fait pour l'espérance. Notre monde, il ne fonctionne pas beaucoup. Ce n'est pas un monde de confiance. Hein? La confiance, c'est la concrétisation de notre vertu d'espérance. Hein. Je vis dans la confiance, et pas la confiance en moi, que je suis le meilleur, que je sais faire tout, mais la confiance en Jésus qui me sauve à chaque instant. C'est différent. Ça veut dire que je découvre que je suis un pauvre. Hein. Si on n'a pas découvert qu'on est un pauvre, on aura peut-être un petit peu de mal à faire confiance à Jésus. On aura confiance en soi-même. Hein. J'imagine, c'est ma bonne étoile, tout me réussit, c'est merveilleux. Je suis surdoué ou je ne sais quoi. Bon, ça marche un certain temps, ça. Hein. Bon, des fois, ça fait une grâce de se casser le cou, avoir une dépression, pour dire finalement, je ne suis pas le meilleur du monde. Hein. Bon. Alors, tiens, un père, l'autre jour, j'étais à Lisieux, un père qui était là, il me dit, ah, je fais une conférence qui a un grand succès. Le titre de la conférence, comment je fais pour ne pas me décourager? Et tout le monde écoute très attentivement. Je crois que c'est le problème de tout le monde. Hein. Alors, il y a les petits moyens comme ça. Je dirais, pour me décourager plus positivement, comment je fais pour grandir dans la confiance en Jésus. Hein, toujours. Je pense que c'est Jésus qui me rend confiance en moi-même et dans les autres. Hein. Mais on n'a pas ça tout seul. Hein. Ben, l'une des choses, c'est ce qu'on a fait en commençant, c'est la louange et l'action de grâce. Hein. Quand on apprend à remercier Dieu toutes les belles choses qu'il a fait pour nous, ben ça nous fait grandir dans la confiance. D'abord, il m'a donné la vie, c'est déjà pas mal. C'est une invitation au bonheur éternel, c'est formidable. Hein? Je n'existais pas, j'étais rien du tout, et puis tout d'un coup, il a décidé que, hein, bon, avec l'aide de mes parents, mais il a quand même voulu que j'existe. Lui, il m'a voulu. Il y en a que leurs parents ne les ont pas voulu, mais Dieu les a toujours voulu, lui. Vous voyez? Et il les aime, depuis avant même leur conception. Et il veut les rendre heureux. Alors ça, c'est important. Puis Jésus, il est venu sur la terre pour nous dire la vérité, pour pardonner nos péchés. Ça aussi, on peut remercier pour ça. Puis après ça, ben, on peut revoir toute notre vie. Bon, là, ça c'est selon chacun. Puis, rendre grâce, hein, pour des choses. Hein. Peut-être qu'on va dire, ah, j'ai été protégé en telle circonstance, ou j'ai... il y a eu des choses qui me sont arrivées que vraiment je ne pouvais pas compter dessus. Bon, chacun a son petite histoire. Ou bien, j'ai trouvé... mon mari, c'est le meilleur du monde. Hein, ben, vous voyez, on peut rendre grâce. Bon. Hein, c'est ça. Hein. On peut rendre grâce. Hein. Puis chaque jour, ben, il arrive des petites choses qu'on peut aussi rendre grâce. Hein. Et on est habitué, vous savez, on est dans un monde... à la télévision, c'est pas ça. À vos informations, c'est toutes les mauvaises nouvelles, sauf exception, mais en général, bon. Hein. Et il y a quoi avoir une dépression, hein. Et tout le monde est hypnotisé pendant au moins une demi-heure tous les soirs devant son appareil, sinon peut-être plus qu'une demi-heure. Hein. Et puis on ingurgite tout ça. Hein. Il y a la guerre par-ci, il y a l'inondation par-là, il y a les tours qui s'écroulent, il y a tout ci et tout ça. Et ça nous remplit, on regarde les images, on voit tous les gens hein, qui pleurent et qui gémissent. Et ça nous rentre dans la mémoire. Vous savez, la mémoire, c'est la faculté qui retient les images, qui retient les événements. Et l'imagination aussi. Hein. Ça reste là-dedans. Et puis pendant la nuit, tout ça, ça grouille. Hein. C'est pas étonnant qu'on fait des mauvais rêves des fois la nuit. Parce qu'on est rempli de toutes ces choses-là. Hein. C'est pas étonnant que de temps en temps on pète les plombs pour envoyer un coup de poing à droite et un coup de poing à gauche, parce qu'il y a des coups de poing avec les poings, puis des coups de poing avec les paroles. Hein. Bon, parce qu'on a écouté ça, on a regardé un film à la télévision, c'était de la violence pure et dure, et hop, on répète les mêmes choses. Et les enfants, qui sont plus sensibles encore, qui me disent oh, j'ai dit telle chose à ma mère, je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai dit combien d'heures par jour tu regardes la télévision. Je lui ai dit, voilà, est-ce que ça pourrait pas venir de la télévision, ce que tu as dit là? Ah oui, oui, oui. Bon, c'est comme ça. On est fait comme ça, on enregistre, et hop, quand il y en a trop, ça sort. Hein. Alors, action de grâce. On va tout à fait à contre-courant. On va faire une action de grâce. On est tout à fait à contre-courant. C'est peut-être bon de s'en rendre compte. Mais si on apprend, c'est pour ça les groupes du renouveau, c'est formidable. C'est ça, on apprend à rendre grâce ensemble de tout ce qui se passe de beau, tout simplement que notre Dieu est vivant. Bon. Alors après ça, action de grâce. On peut faire aussi des actes de confiance. J'ai confiance en toi, Jésus. Ça, on peut faire ça 100 fois par jour. Hein. On peut faire une attitude de confiance aussi. Hein. Ça veut dire que, je ne sais pas, il y a des jours qui sont gris, il y a des jours où on se lève du mauvais pied, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où il y a des choses qui ne vont pas. Bon. Ben, ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, si on se jette sous le lit en tapant du poing, en disant j'en peux plus, ça c'est pas une attitude de confiance. Voyez. Parce que c'est une attitude de se décourager. Hein. Et on peut peut-être dire, au contraire, on peut dire à Jésus, ah ben voilà, aujourd'hui, je me sens pas très forte. Je pense que j'ai besoin de faire une sieste. Hein. Ben, je vais faire la sieste pour toi, Jésus. Hein. C'est formidable, ça. Saint-François de Sales dit ça, d'ailleurs. Hein. Il faut faire pour Dieu, pas juste les choses qui nous sont pénibles, mais même les choses qui nous sont agréables, comme de manger et de dormir. Vous voyez, ben, c'est ça. Hein. Après tout, j'ai besoin d'une bonne petite sieste, parce que vraiment, c'est pas la forme. Ben, je vais la faire pour Jésus, ma petite sieste. Pour montrer à Jésus que je ne vais quand même pas tirer sur la corde jusqu'à temps qu'elle pète. Hein. Voyez. Alors, nos attitudes, ou bien alors si ça ne va pas, on va dans la rue, puis on donne un coup de pied sur toutes les poubelles qui passent. Bon, c'est pas ça qui nous donne la confiance. Voyez. Mais on peut peut-être faire attention de dire bonjour madame, un petit sourire, On trouve toujours quelqu'un qui est plus pauvre que nous, ou plus triste, ou plus malheureux. Hein. C'est pas très difficile à trouver. Hein. Ben, voilà. On n'est pas obligé de passer 3 heures à la consoler, parce que là, on va faire une déprime. Hein. Mais on a un petit sourire. Hein. On ne peut pas faire beaucoup plus, mais on va faire ça. Hein. Ou bien, des fois, dans notre maison, on a à peu près 395 000 choses qui traînent. Hein. Bon. On ne peut pas ranger les 395 000 aujourd'hui. Mais peut-être, pour montrer à Jésus notre bonne volonté, on peut ranger une chose qui traîne. Vous voyez, c'est tout. On n'a pas la force d'en faire plus, mais on peut le faire. Juste, c'est comme, c'est un petit, je veux dire, c'est un petit bisou qu'on fait à Jésus pour dire, ben, je veux me tourner vers toi, je ne vais pas complètement m'enfoncer. Hein, bon, ben, c'est ça des attitudes de confiance. Hein. Bon, des petites choses pour montrer notre bonne volonté. Après ça, ben, il y a aussi des gens que Jésus fait participer à ses épreuves pour le monde, à son agonie, tout ça. Bon, des fois, on se sent bien nulle part. Il y a des gens qui prient plus longtemps, mais qui se sentent bien nulle part parce que ils seraient plus heureux au ciel, quoi. Hein, bon. Hein, Jésus, il a fait une belle prière. Ou alors, quand on se sent dans son agonie, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. C'est très important. Ça peut être utile pour chacun de nous à un moment ou l'autre. Quand on sent que vraiment, il n'y a plus grand-chose qui marche, on peut s'arrêter d'abord, prier. Jésus, il a dit, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Bon, si c'est possible, Jésus, que ce malaise, ce mal-être passe de moi parce que je passe un mauvais quart d'heure, hein, mais que ta volonté soit faite. Hein, bon. Ben on dit les deux. Hein, on demande d'abord d'être délivré. Il ne faut jamais croire que c'est la volonté de Dieu si on n'a pas demandé d'être délivré. Puis après ça, on dit que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Ben on ne reste pas enfermé en soi-même, on se tourne vers le Père. Hein, on dit si c'est possible, Père. Hein, voilà. Et ça change tout. Hein. Parce que là, si on s'adresse au Père, ben, c'est le Père, c'est mon Père, il m'aime, alors qu'il arrive quoi que ce soit, il peut rien m'arriver, puisque mon Père m'aime. Hein. Mais on se tourne vers lui, on ne reste pas enfermé. Alors ça, c'est ça. Hein. Et donc, ce qui la confiance nous demande, c'est de nous décentrer de nous-mêmes, pour nous centrer sur Jésus. Et alors, un des dangers aujourd'hui, il y a deux dangers qui sont, mais il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. Hein. L'un des dangers, c'est le marxisme et la psychanalyse. Hein. Le marxisme, c'est athée, le danger pour l'Église, pour la foi, parce qu'il ne voit que le matériel. Il voudrait que l'Église soit, les expressions religieuses soient réservées au privé, qu'on ne les voit plus du tout à l'extérieur. Hein. On pense que c'est mort parce que le rideau de fer est tombé, mais on en a tout autour de nous. Hein. On veut que rien. Que le matériel qui compte. C'est le matérialisme pratique. Hein. On vit pour la maison, la voiture, l'argent, l'ordinateur, les études. Bon. Alors, ça, c'est un danger. Ils ont quand même les pieds sur terre. Et l'autre, c'est la psychanalyse. C'est de s'analyser. Hein. S'analyser. Chez les jeunes, c'est très à la mode. Hein. Surtout qu'on a entendu parler de la psychanalyse. On n'a pas étudié vraiment. On a entendu parler, on analyse. Tu fais ceci parce que tu as ça, parce que tu as tel problème avec ton père, ou parce que tu as passé un... C'est peut-être très intéressant. C'est pas ça qui nous donne l'espérance. Hein. Et c'est pas ça qui nous relève. Et des fois, on s'analyse soi-même, on n'a pas besoin des voisins. Hein. On s'analyse, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi que ça va mal pour ceci et ça, ceci, etc. Et peut-être qu'elle a dit ça, peut-être qu'elle a voulu ça, elle a pensé, qu'est-ce que... Ça, c'est un enfer. Alors, c'est... Pour la vie dans l'esprit, il ne faut pas trop s'analyser. Il faut apprendre à remettre à Jésus les choses. D'abord, plus on analyse, plus on ne comprend rien. Et puis ça n'annule pas. Bon, ça peut peut-être nous faire découvrir éventuellement des blessures, de choses sensibles. Quoi. C'est peut-être très intéressant, oui. C'est vrai, des fois c'est utile, mais pas trop. Hein. Pas vivre uniquement de ça. Et surtout, c'est pas ça qui nous donne l'espérance. C'est Jésus qui nous fait dire tu es meilleur que tu penses. Tu es meilleur que ce que tu vois et tu es meilleur que ce que les autres voient. Parce que moi, je te connais, moi, je t'aime et je sais ce que tu vaux. Et je suis capable de faire germer un parterre de fleurs dans ton cœur. Oui. Bien plus que ce que tu peux imaginer. Alors je remets à Jésus. Oui, je remets à Jésus. Ou alors il y a des gens, je vois ça quelquefois, c'est des gens qui analysent leur mari. On a l'impression qu'ils passent leur vie à analyser leur mari. Le pauvre. Laissez-le vivre. Et peut-être qu'il a besoin d'une aide psychologique, ben envoyez-le chez le psychologue, s'il consent. Mais il a besoin d'être admiré aussi. Il a besoin qu'on voit ce qu'il y a de bien en lui. Il doit bien avoir quelque chose de bon. Après 30 ans ou 40 ans de mariage, je ne sais pas. Et, enfin, je suis comme ça. Ou on analyse nos enfants. Bon, c'est pareil. Il faut demander la grâce de voir. Ça, c'est quelque chose que Jésus... Et ce qu'on voit le plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un cœur, et ça, capable d'être aimé. J'ai fréquenté beaucoup l'Arche de Jean Vanier, et c'est vrai que les personnes handicapées, dans leur intelligence, c'est pas eux qui vont construire des buildings, c'est pas eux qui vont écrire des livres, mais ils ont une délicatesse de relation extraordinaire. C'est nos relations personnelles. Alors ça, on est fait pour ça. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont les êtres de relation. Vous voyez, c'est ça. Ils sont en relation. Le Père, ben, il est le Père du Fils et le Fils, il est le Fils du Père. Et les deux s'aiment tellement que ça fait l'Esprit Saint, c'est la personne à amour. Vous voyez. Alors, donc ça aussi, Alors, il ne faut pas vivre non plus dans le passé ni dans l'avenir. Il faut vivre dans le présent. C'est uniquement dans le présent que l'Esprit Saint peut se donner à nous. Nos vieux péchés, bon, ils ont été confessés, pardonnés, c'est réglé. Il faut y croire au pardon. Puis, ce qui pourrait arriver dans l'avenir, de toute façon, ça n'arrivera pas comme on l'imagine. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Et puis nos émotions, nos états d'âme, nos interprétations, nos imaginations, tout ça. Ça, c'est nos pensées. Je vais parler de ce que Saint-François de Sales disait sur les pensées de Madame Jeanne de Chantal. C'est valable pour nous. Alors donc ça, vous voyez, ça c'est parmi les moyens d'espérance. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ben, Jésus nous a donné sa mère, on en a parlé. Puis encore les... Moi, ce qui m'a aidé dans ma vie, dans mon espérance, on pourrait dire pour reprendre la formule de tout à l'heure, pour ne pas me décourager, c'est quand même certaines révélations privées. Vous voyez. Et moi, j'ai entendu parler de Don Gobi, vous voyez, ce prêtre dont je vous ai parlé. Il a rassemblé un mouvement de prêtres pour dire il y aura des difficultés dans l'Église, vous allez en passer au travers si vous êtes fidèle au pape, tout simplement. Il y a une dizaine de milliers de prêtres et d'évêques qui se sont rassemblés dans ce mouvement. Bon. Il y a des choses comme ça. Bon. Moi, j'étais à Medjugorje, c'est un lieu extraordinaire, quand on voit comment une paroisse entière s'est transformée. Pas par le fait qu'il y a des apparitions, par le fait que les gens ont mis en pratique l'évangile qui leur était rappelé. La Sainte Vierge vient juste pour rappeler l'évangile, il n'y a pas pour inventer autre chose de nouveau. Ben, ils ont décidé de mettre Dieu en première place dans leur paroisse. Et ça se voit. Hein. Bon, c'est un grand lieu d'espérance. Hein. Bon, je vous ai cité tout à l'heure la Vasula, ben, c'est pareil, c'est une fille qui a rien eu jusqu'à 30 ans. Et puis tout d'un coup, Jésus a commencé à lui parler. Et la prise du béaba, elle pose des questions vraiment enfantines au début. Hein. Jésus répond. Et à la fin, au bout de 15 ans, eh ben, elle est dans la grande mystique, elle fait des leçons de vie spirituelle. Je l'ai écouté à Saint-Denis l'année dernière. Ben, parce qu'en 15 ans, Jésus l'a conduit de zéro jusqu'à un sommet d'union avec lui. Parce que c'est des grands signes d'espérance. Je dis ces trois, nomme ces trois-là parce que c'est des signes qui sont connus dans le monde entier. Hein. Qui sont reconnus bon, presque officiellement. Hein. Vous voyez. Pas tout à fait officiellement, mais presque. Le pape il n'a jamais pu aller à Medjugorje parce que l'évêque n'a jamais voulu l'inviter, mais il a pris un petit moyen de tourner, il a écrit une lettre tout à fait personnelle au Père Joseph en disant « Je vous remercie ce que vous faites pour la Sainte Vierge. » Mais il a respecté l'évêque local qui n'en veut pas. Vous voyez. Et, mais alors ça, pour moi, ça, c'est des choses. C'est des dons de Dieu. C'est des grâces. On ne peut pas mépriser. Il faut discerner, parce qu'il y a aussi des choses farfelues. Hein, mais ça n'ajoutera rien à la révélation. Mais ça vient nous confirmer que Dieu, il est là avec nous. Je suis là. Et je vous aime, et je vous accompagne, et vous allez vivre des moments difficiles, mais je suis avec vous. Et je vous rappelle l'Évangile. Voyez, lisez l'Évangile, tout ça. Ah, l'Évangile aussi, c'est un moyen d'espérance, il faut connaître Jésus. Hein. Voilà. Puis les charismes, c'est pareil, ben là, ils ont besoin d'être confirmés. Hein, voyez. Il faut qu'ils respectent les personnes. Hein. Il faut qu'ils respectent la liberté des autres. Hein. C'est important. Des gens qui disent « Ah, j'ai vu que dans ta vie, il y a ceci, il y a ça. » Il faut que ça respecte la liberté des gens aussi. C'est peut-être vrai, mais il faut que je m'aperçoive que c'est vrai. Bon, tout ça, c'est des moyens de la vie dans l'esprit. Moi, ce que c'est des moyens qui nous sont donnés. Là, les dernières choses que j'ai dit, c'est peut-être des choses un petit peu extraordinaires, mais je crois qu'on vit dans une époque extraordinaire. On vit dans une époque qui a beaucoup de chances de rencontrer des persécutions. Et on sait que dans les pays persécutés, c'est là où il y a eu les plus nombreuses choses extraordinaires, parce que le bon Dieu a voulu se manifester quand même, vous dire « Je suis avec vous, et je ne vous abandonne pas même si vous êtes persécutés. »